Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry.
Bon, nous parlerons toujours de mieux voir les étoiles, les planètes, les galaxies, l'univers lointain. Et je vous signale que le Collège de France vous soumet un petit questionnaire anonyme qui est à l'entrée et que ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent s'y exprimer. Et je vous encourage à mettre des critiques et des suggestions. D'une part pour toute l'organisation, enfin tous les cours du collège, et en particulier pour celui-ci. Aujourd'hui, je vais parler des essais que nous avons entrepris dans les Pyrénées en vue de faire un hypertélescope de 200 mètres. Et nous aurons à 15h le séminaire de Pierre Baudoz, l'imagerie haute dynamique appliquée aux exoplanètes, développement actuel et futur. Bien, une fois de plus, voilà ce que nous voulons faire à court terme et de façon progressive, c'est-à-dire démarrer avec quelques éléments, quelques petits miroirs qui focalisent la lumière d'une étoile sur une caméra suspendue à un câble de 1 km qui traverse cette vallée, et puis progressivement ajouter d'autres petits miroirs de plus en plus, si ça marche, pour arriver à une configuration riche qui donnera qui donnera des images également très riches d'objets complexes avec une résolution de une demi-milliseconde d'arc, c'est-à-dire 2000 fois meilleur que ce qu'on observe jusqu'ici traditionnellement en étant limité par l'atmosphère. Bon, et puis ce ne serait qu'une étape avant de faire le même genre de choses dans l'espace où les problèmes sont différents, certains sont supprimés, d'autres sont ajoutés. Bon, je rappelle brièvement les questions discutées la dernière fois, en particulier ces simulations où on utilise deux petites ouvertures, ou trois petites ouvertures, c'est le cas de la plupart des interféromètres qui existent actuellement, et où on varie la disposition des ouvertures, par exemple en les faisant tourner pendant l'observation, pour enrichir l'image. Bon, si on ne fait pas tourner les ouvertures, dans le cas de deux ouvertures, on a comme image d'une étoile une série d'interférences, comme celle-ci, dont la frange centrale est ici. Si on a trois, on a une espèce de nid d'abeille, avec une cellule centrale qui est ici. Si on fait tourner pendant la pause, eh bien... l'image de l'étoile tourne autour du point central ici ou ici et on obtient quelque chose dont le profil ressemble à ça. Enfin, je vais le montrer de façon plus détaillée. Si on a 30 étoiles dans le champ, eh bien, l'image ressemble à ça dans le cadre de deux ouvertures avec rotation, à ça s'il n'y a pas de rotation, et on peut soustraire le fond continu important qui voile l'image des étoiles pour améliorer le contraste, et à ce moment-là, on reconnaît les étoiles. On les reconnaît parce qu'il y en a très peu, il n'y en a que 30, mais si on en mettait plus, on ne verrait plus rien. Et ça, c'est la limitation due au fait qu'on a peu d'ouvertures. Et c'est là qu'on gagne énormément en augmentant le nombre d'ouvertures, et si vous voyez que vous voyez un peu mieux ici avec trois ouvertures qu'ici avec deux. Bon, alors, mettons maintenant 300 étoiles pour illustrer le problème. Et vous voyez que vous avez 300 étoiles ici, les mêmes trois ouvertures ou deux ouvertures. Vous voyez, là, c'est l'image sans rotation, là, c'est avec rotation. Vous voyez que là, on ne voit pas grand-chose. Là, on voit... très très faiblement, très peu contrasté quelque chose. Si on soustrait un niveau continu ici pour améliorer le contraste, on améliore le contraste, certes, mais on ne reconnaît pas nos étoiles ici. On ne reconnaît pas nos étoiles parce qu'il y en a trop. Il y en a trop et qu'on a un problème d'encombrement du champ. Les pics secondaires de la fonction d'étalement masquent les étoiles. Alors, regardons de plus près les profils de de la fonction d'étalement. La fonction d'étalement, c'est l'image d'une étoile, d'une seule étoile non résolue. Eh bien, le profil, compte tenu de la rotation, c'est-à-dire en quelque sorte, on photographie le profil, mais on fait tourner soit la caméra, soit l'ouverture, c'est s'il n'y a que deux ouvertures, ça ressemble à ceci. Là, vous avez le pic central, vous avez un pic central qui est au niveau 1, et l'échelle est logarithmique. Là c'est 0,1, et le fond moyen est à la moitié à peu près, niveau 0,5. Bon, donc, avec deux ouvertures, comme ceci, en faisant tourner l'ouverture, on a une fonction d'autocorrélation peu contrastée. Pas une fonction d'autocorrélation, une fonction d'étalement peu contrastée. Bon, si vous avez trois ouvertures, c'est légèrement meilleur. Là, ici, vous avez 1, ici, vous avez 0,1. Vous voyez que le niveau a légèrement baissé par rapport à ici. C'est légèrement meilleur, mais c'est encore pas très bon. Si maintenant, vous avez 33 ouvertures ici, vous voyez que c'est nettement meilleur. Et en fait, vous êtes à peu près à 3%, comme le prévoit la théorie. La théorie dit que c'est en gros que le rapport entre le pic central et le halo est en gros égal au nombre d'ouvertures. Donc on a une nette amélioration, et ça explique que si vous avez plusieurs étoiles, les fonctions d'étalement de chaque étoile se superposent en étant décalées, et vous avez donc une meilleure image quand vous avez plus d'ouvertures. Bon, donc en gros, la réponse à la question, c'est que... Alors, pourquoi est-ce que le fait d'avoir un plus grand nombre d'ouvertures simultanément est meilleur par rapport au fait d'avoir deux ou trois ouvertures et de les déplacer ou bien de le faire tourner l'ouverture? Au lieu de faire tourner, on peut aussi déplacer les deux ouvertures, faire différentes configurations, différentes bases, orientations. La raison fondamentale, c'est que si on fait ça, ça revient à faire des pauses successives avec différentes ouvertures, ou en faisant tourner l'ouverture, et ces pauses successives ajoutent leurs interférences en intensité. Les pauses successives sont incohérentes, on ajoute donc les intensités, les énergies lumineuses des images. Alors que lorsque vous faites une pause avec des ouvertures nombreuses, l'information venant des différentes ouvertures s'ajoute de façon cohérente. Ce sont des vibrations qu'on ajoute de façon cohérente, et c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait qu'on a un pic beaucoup plus contrasté lorsqu'on a des ouvertures nombreuses. Bon, alors un autre aspect qui intervient pour les questions d'hypertélescope, c'est pour utiliser au mieux la lumière captée. Vous savez que la lumière venant des étoiles est faible, et surtout si on veut regarder des étoiles très faibles, donc des galaxies à la limite de l'univers. Et le principe de ce qu'on appelle l'hypertélescope, ça consiste à s'arranger pour que l'étoile voit une ouverture qui peut ressembler à ça, par exemple, ou périodique ou non périodique, là, elle est périodique, mais que la caméra envoie une version modifiée qui ressemble à ça, où chaque ouverture apparaît plus grosse qu'elle n'apparaît vue de l'étoile. C'est ce qu'on appelle la densification de pupille. Bon, alors ça, miraculeusement, ça intensifie énormément l'image, ça rend l'image beaucoup plus lumineuse, par exemple des millions ou des milliards de fois plus lumineuse, ce qui est très intéressant, parce que ça rétrécit le halo de diffraction que produisent les petites ouvertures. Et ça concentre la lumière dans le pic d'interférence, et donc ça intensifie l'image qui est formée. Bon, alors j'avais déjà expliqué pourquoi. J'avais expliqué la dernière fois comment le faire en rajoutant imaginez un télescope géant formé de petits morceaux, qui forme un foyer. Là, c'est ce qu'on appelle l'image FISO. Elle est utilisable. Dans les simulations que je viens de montrer, c'est l'image FISO qui est calculée. Elle est utilisable, mais elle est peu lumineuse. Elle est peu lumineuse. Si on rajoute un petit gadget qui ressemble à ça, avec des petites lunettes de Galilée inversées, on obtient la même image, mais beaucoup plus lumineuse. Et le résultat est que, vu de la caméra qui est ici, la pupille ressemble à ceci, alors que vu de l'étoile, elle ressemble à ceci. Bon. Alors, et ce fait permet d'envisager des ouvertures extrêmement diluées, qu'on ne pourrait pas utiliser en mode fiso. Bon, par exemple, je parlerai la prochaine fois de ce projet dans l'espace qui aurait des très petits miroirs, 30 mm par exemple, en grand nombre, 40 000, ce qui donnerait une surface collectrice totale équivalente à celle d'une ouverture de 6 mètres. Bon, l'espacement de ces petits miroirs serait 500 mètres si la dimension totale de la flottille, c'est-à-dire tout ça, fait 100 km. 100 km, c'est ce qu'il faut pour voir les détails, pour bien voir les détails d'une planète comme la Terre à une dizaine d'années-lumière. Chercher la vie dessus, par exemple. Bon. Alors, si on part de cette flottille et qu'on ajoute un gadget comme ceci, pour densifier complètement la pupille, le facteur de densification, ça va être 10 000 en diamètre, ce qui fait 100 millions en surface. Bon, et l'intensification est proportionnelle à la densification en surface, c'est-à-dire S sur D. S, c'est la séparation des miroirs, et D, c'est leur diamètre. Et donc, l'intensification serait de l'ordre de 270 millions. Bon, vous voyez que ce n'est pas négligeable comme gain de luminosité, et que ça permet d'envisager, de regarder les objets très faibles que sont ces planètes. Bon, un autre cas encore plus extrême, nous avons réfléchi à la possibilité de faire le même genre d'engin, mais encore plus grand, mais avec des miroirs moins nombreux, plus gros et moins nombreux, qui serviraient à essayer de voir ce qu'il y a à voir éventuellement sur une étoile à neutrons. C'est-à-dire qu'une étoile à neutrons, c'est un objet comme le pulsar du crabe, qui est une espèce de qui est un objet extrêmement condensé, le diamètre ferait 20 km avec la masse du Soleil, la matière hyper dense, et étant si petite, elle est très difficile à résoudre. Il faudrait en principe des dimensions de l'ordre de 100 000 voire 1 million de kilomètres ici. Bon, mais avec ces très grandes dimensions, on serait obligé d'avoir que chaque petit miroir soit lui-même relativement grand. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais on serait obligé qu'il soit relativement grand pour que la diffraction n'étale pas trop la lumière vers le foyer. Bon, et alors, dans ce cas, l'intensification serait 10 puissance 14, ce qui est trop en fait. En fait, on n'aurait pas besoin de tant de lumière, parce que, enfin, pour regarder le pulsar du crabe est relativement lumineux, magnitude 18. Il suffit d'un télescope grand comme ça pour en former des images. Et donc, les miroirs de 10 mètres seraient en fait trop grands pour ça. Alors, j'ai essayé de calculer, en particulier pour convaincre la NASA et l'ESA, de calculer le gain en science. Évidemment, ce n'est pas très facile à définir, le gain en science, mais enfin, on peut estimer. Le gain en science s'améliore si on met des miroirs plus petits et plus nombreux. On raisonne à surface collectrice totale constante. Ça correspond à peu près au prix de fabrication, hein, la surface collectrice totale. Bon, donc à budget donné, en gros, vous avez une certaine surface collectrice et vous avez le choix de faire des gros miroirs peu nombreux ou des petits miroirs nombreux. Bon, et on gagne énormément à faire des petits miroirs nombreux parce que le champ d'imagerie directe, le problème des hypertélescopes, c'est que, contrairement au FISO, dans un FISO, le champ est infini, c'est-à-dire aux aberrations près. Bon, et si vous avez un objet large, étendu, en principe, vous pouvez former une image d'un seul coup de tout l'objet. Bon, alors qu'avec un hypertélescope, il y a une dimension critique qui est de l'ordre de lambda sur S. Lambda est la longueur d'onde et S la séparation des miroirs, qui est la distance, qui est la dimension maximum du champ que vous pouvez imaginer d'un coup. Mais vous pouvez en imaginer plusieurs les uns côté des autres en exploitant leur lobe de diffraction séparément. Bon, enfin bref, on calcule que la quantité de science qu'on peut faire serait donnée par cette expression, qui n'est pas très parlante, d'où il ressort qu'on gagne énormément si le diamètre petit d diminue. Par exemple, on fait 1000 fois plus de science avec des miroirs de 10 cm que des miroirs de 1 mètre à surface collectrice totale. Bon, et puis ça, ça se voit sur ces courbes. Bon, mais à quel point peut-on rétrécir les petits miroirs? Il ne faut quand même pas que ce soit trop petit pour que leur diffraction envoie de la lumière dans un angle raisonnablement petit pour pouvoir collecter cette lumière par l'optique focale. Bon, alors par exemple, ce système dans l'espace pourrait avoir 40 000 miroirs de 30 mm. Mais on ne pourrait pas faire des miroirs beaucoup plus petits parce qu'à ce moment-là, il faudrait une optique collectrice plus grande et plus encombrante près du foyer. Voilà, alors j'en arrive maintenant aux considérations plus pratiques, voire techniques. Je vais essayer de ne pas être trop technique quand même. Comment construire des hypertélescopes? Bon, alors il y a plusieurs façons de les construire en pratique. Par exemple, on peut trouver un site plat et mettre dessus un certain nombre de télescopes, comme nous voulions le faire il y a quelques années, dont chacun renverrait le rayon de lumière vers une cabane au centre. Et là, on combinerait tous les faisceaux pour faire une image selon les conditions de l'hypertélescope en densifiant la pupille. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait actuellement avec quatre grands miroirs, par exemple au Chili, un grand interféromètre européen au Chili, quatre miroirs de 8 mètres. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'il faut des lignes à retard, c'est-à-dire il faut rajouter des renvois avec des miroirs pour que la longueur de propagation de la lumière depuis l'étoile jusqu'au télescope et jusqu'à la caméra soit la même selon tous les chemins. Bon, alors ligne à retard, ça marche, mais ça coûte très cher. En gros, c'est un miroir qui se promène sur des rails avec une très très grande précision, de l'ordre du micron, sur 100 mètres ou plus de longueur. Ça coûte très cher, il y en a au Chili, il y en a aux États-Unis, mais il y en a pour quelques faisceaux. Au Chili, il y a 6 faisceaux seulement, 6 lignes à retard. Et si on voulait en mettre 100, ça coûterait trop cher, on ne pourrait pas. Donc ça, c'est un gros inconvénient. Une autre approche serait d'imaginer un miroir géant dilué, et un kilomètre par exemple, de forme parabolique. Alors, forme parabolique, c'est idéal si l'étoile est sur l'axe, parce que la condition d'égalité des chemins optiques, à ce moment-là, est satisfaite automatiquement par les propriétés géométriques de la parabole. Mais si l'étoile n'est plus sur l'axe optique de la parabole, ça ne marche plus, on a une énorme aberration de coma. Et donc, si on faisait un système comme ça, il faudrait pouvoir le pointer globalement. C'est-à-dire faire un mécanisme qui ferait une monture orientable, qui ferait un kilomètre de diamètre. Et on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Les plus grandes qu'on sait faire, c'est 100 mètres pour les radiotélescopes. Il était question de construire un télescope optique de 100 mètres. L'Europe avait fait une étude ces dernières années, mais elle a abandonné parce que c'était trop cher. Bon, elle l'a rétréci à 42 mètres. C'est le projet actuel de très grands télescopes européen. Bon, alors nous avions un peu réfléchi à la possibilité de faire au pôle sud, enfin plus exactement près du pôle sud, au Dôme C, un système suspendu à trois ballons avec une espèce de grand filet portant plein de petits miroirs et des treuils pour piloter des câbles pour que tout ça soit orientable en conservant sa forme au dixième de micron près. C'est pas facile. Bon, troisième possibilité serait de faire l'équivalent du radiotélescope d'Arecibo, c'est-à-dire trouver un endroit où il y a un cratère de volcan ou une cuvette de forme presque sphérique et la tapisser de miroirs fixes reconstituant une sphère géante en petits morceaux, sphère géante en pointillés. Bon, alors, à mi-chemin du centre de courbure de la sphère géante, il y a ce qu'on appelle la surface focale, c'est là où les rayons de lumière se concentrent le mieux. Bon, mais ils se concentrent imparfaitement. La parabole concentre parfaitement, mais la sphère concentre imparfaitement, les rayons se croisent mal, les chemins optiques ne sont pas égaux, l'image n'est pas exploitable directement. Il faut rajouter un peu d'optique ici pour corriger ces défauts, défauts qu'on appelle l'aberration sphérique, et rendre l'image exploitable. Alors ça, c'est notre solution favorite, parce qu'il n'y a pas besoin de lignes à retard, donc on peut mettre des petits miroirs très nombreux pour faire une imagerie plus riche, et on n'a pas besoin de pointer, tout ça c'est fixe. Tout ça c'est fixe, la seule chose qui bouge, c'est la caméra qui doit se balader là pour suivre le dépassement de l'étoile ou pour observer d'autres étoiles. Alors, en raison de l'analogie avec cette grosse fleur de chardon des Alpes, une grande fleur comme ça qui est plaquée au sol avec de solides épines pour résister aux moutons et qui contient des centaines de petites fleurs, qui s'appelle Carlina, nous appelons Carlina ce genre de structure. Bon, et puis enfin, une quatrième approche pourrait ressembler à ça, mais où on mettrait des fibres optiques, on mettrait une fibre optique entre chaque foyer de télescope ici et le combineur ici. Bon, alors, ça peut être utile, mais c'est amusant en tout cas, c'est magique, on fait rentrer la lumière par un bout de la fibre, ça ressort par l'autre bout, mais ça ne résout pas le problème des lignes à retard, parce qu'il faut encore, comme l'étoile la Terre tourne, l'étoile se déplace dans le ciel, les longueurs de trajet varient ici, et si on veut que ce soit strictement égal à une fraction de micron près, il faut rajouter des lignes à retard sur chaque fibre, et donc ça limite, on ne pourra pas avoir des télescopes très nombreux. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on peut mettre autant de télescopes qu'on veut, 1000, voire, enfin autant de miroirs, et 100, 1000, voire 10 000 si on veut. Et que comme la structure est stationnaire, il n'y a pas besoin de grandes montures, et donc ça peut être beaucoup plus économique. Alors, un collègue de Meudon, Guy Perrin, qui avait eu l'occasion d'en parler ici d'ailleurs, a pu faire des essais d'interférométrie à travers des fibres optiques à Hawaï, sur le volcan de Mauna Kea, où se trouvent déjà un certain nombre de télescopes, le télescope français-canadien 3,60 m, un télescope de 8 mètres, un télescope anglais et infrarouge, un télescope japonais de 8 mètres, deux télescopes de 10 mètres qui font des interférences. Donc il a pu coupler certains de ces télescopes avec des fibres optiques et obtenir des interférences. Et son idée est que peut-être il pourrait essayer de coupler l'ensemble des télescopes, ce qui donnerait des longueurs de base de plusieurs kilomètres, et donc une résolution extrêmement élevée. Peut-être qu'une difficulté sera de persuader tous les utilisateurs de ces télescopes de sacrifier un petit peu de temps pour faire des observations communes. Et là, vous avez l'autre volcan de cette grande île, c'est la plus grande île de l'archipel d'Hawaï, et là, vous avez un volcan qui n'est pas éteint, qui fait des éruptions de temps en temps, et celui-là est censé être éteint. Et il y en a un troisième qui est en train de sortir de la mer un peu plus loin. Alors, si vous utilisez des fibres optiques, vous pouvez aussi recombiner les faisceaux en mode hypertélescope. Bon, par exemple, là, vous avez vos N télescopes. Chacun a une fibre optique qui récupère la lumière au foyer, qui arrive dans une cabane. Et là, vous rassemblez toutes vos fibres optiques comme ça. Là, simplement, vous les ficelez ensemble. Vous les ficelez ensemble à l'arrivée. Il faut qu'elles aient toutes exactement la même longueur, au micron près, en supposant que leur indice de réfraction soit le même. Mais vous les ficelez ensemble de manière à respecter la configuration des ouvertures ici. Il ne faut pas les mélanger. Il faut qu'elles soient chacune à leur place. Bon. Et en principe, si tout est en phase, et ça c'est une grosse difficulté, parce que déjà vous avez l'atmosphère au-dessus qui perturbe les phases, et puis les fibres aussi, mais enfin, supposez que vous arriviez à mettre tous en phase avec de l'optique adaptative, eh bien, apparaîtrait, alors vous mettez à une certaine distance la caméra, une distance telle qu'elle reçoive la superposition de tous les faisceaux de lumière qui divergent à la sortie des fibres. Bon, eh bien, si tout est en phase au centre, vous obtenez un pic d'interférence ici, parce que là, toutes les amplitudes de vibration s'ajoutent. Et autour, vous avez des tableaux speckles, c'est-à-dire des espèces de granulations d'interférences plus ou moins brillantes selon que l'interférence est constructive ou destructive à cet endroit-là, compte tenu des différents retards optiques. Alors ça, c'est pour une étoile infiniment fine. Si votre étoile est double ou triple, etc., ben vous aurez 2 ou 3 ou 4 pics, vous aurez une image directe ici. Bon, là encore, le nombre d'ouvertures sera limité par le coût élevé des lignes à retard. Alors, des gens se sont demandé si on pourrait faire ça dans l'espace. Ils imaginent des fibres qui flottent comme des cheveux dans l'espace entre les télescopes et une caméra centrale. L'intérêt de faire ça dans l'espace n'est pas très évident. Là, on peut retirer les fibres optiques et ça se passe pas plus mal. D'autant qu'il y a des problèmes éventuellement de fluorescence si les fibres optiques sont mal protégées des ultraviolets, et éventuellement d'effet Cherenkov si elles sont mal protégées des particules. L'effet Cherenkov, c'est quand des particules pénètrent dans un milieu où leur vitesse est plus élevée que celle de la lumière dans ce milieu, dans un milieu... d'indice élevé, la vitesse de la lumière est ralentie par rapport à ce qui est dans le vide, mais une particule, elle, peut traverser plus vite que la lumière dans ce milieu. Et à ce moment-là, la lumière produit... Enfin, il y a une émission de lumière par un effet qui ressemble un petit peu au sillage d'un bateau sur l'eau. Quand vous avez un bateau qui avance plus vite que les vagues sur l'eau, ça fait un sillage en V. Et la lumière émise par l'effet de Cherenkov fait elle aussi un espèce de sillage conique. Bon, enfin bref, l'émission de telles lumières dans des fibres pourrait contaminer la lumière qu'on cherche à voir. Alors, les collègues de Grasse ont pu faire un essai en laboratoire, un montage en laboratoire, qui a permis de vérifier qu'on peut vraiment faire de l'imagerie hypertélescope à travers des fibres. Notamment, il y a eu la thèse de Patru et un article de Patru, Denis Morard et d'autres qui ont obtenu ces résultats. Alors, ils ont simulé l'ouverture du grand interféromètre européen au Chili, formé de 4 télescopes de 8 mètres. Alors là, ils ont simulé... Alors en réalité, c'est beaucoup plus dilué que ça, mais ils ont simulé une version densifiée. Là, ils ont utilisé 2 fibres, ils ont mis 2 ouvertures, ils ont obtenu des interférences comme ceci, avec un petit nombre d'interférences dans la figure de diffraction, dans l'enveloppe de diffraction, dû au fait qu'il y a la densification des pupilles. En gros, la règle, c'est que si vos 2 pupilles sont espacées de diamètre, vous avez 2 franges ici, si c'est passé de 10 diamètres, vous avez 10 franges en travers de la fonction de diffraction. La fonction de diffraction, oui. Bon, là, les deux autres, là, ces deux autres un peu plus espacés, donc les interférences sont plus serrées. Là aussi. Et puis là, ils ont mis les 4 ouvertures en même temps. Et en mettant bien en phase, ce qui n'était pas trivial, il a fallu utiliser des micro-déplacements extrêmement sensibles au dixième de micron, actionnant des miroirs. Ils ont réussi à tout mettre en phase et à ce moment-là apparaît le pic central dû à l'interférence constructive des 4 vibrations avec quelques pics secondaires. Alors, il suffit que quelques-uns des miroirs se déplacent d'un dixième de micron pour qu'on perde ça. À ce moment-là, on obtient des taches irrégulières et on perd cette concentration de lumière. Et voici les vues en perspective. Bon, donc nous travaillons surtout sur la voie sphérique, qui paraît particulièrement intéressante sur Terre, mais aussi dans l'espace. Bon, il n'y a pas de cratère dans l'espace, mais on peut faire des flottilles qui flottent dans l'espace, comme leur nom l'indique, et on peut les piloter, peut-être avec des faisceaux de laser, comme j'expliquerai la prochaine fois. Enfin, pour l'instant, nous en sommes sur Terre. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer une hémisphère ou un miroir hémisphérique géant. Bon, et il y aurait une sphère focale ici, de rayon moitié. C'est là que se forme la meilleure image, qui est imparfaite, comme je l'ai dit. si votre sphère géante, bon, l'idéal, ce serait que ce soit un miroir géant d'une seule pièce, mais ça coûterait trop cher, donc on met plein de petits miroirs qui sont représentés ici en pointillés. Et s'ils sont tous parfaitement réglés pour coller exactement à la surface sphérique théorique, vous avez ici une image et vous mettez une caméra pour la récupérer. Et rien ne vous empêche de mettre une autre caméra pour observer l'étoile bleue qui est là-bas, en même temps que vous observez l'étoile rouge qui est là-bas. Et puis vous pouvez mettre une douzaine de caméras si vous voulez, vous observez une douzaine d'étoiles à la fois dans différentes directions. Donc finalement, vous rentabilisez mieux votre système parce que vous pouvez avoir plusieurs équipes qui observent différentes choses en même temps. Alors, je disais que c'est assez analogue à ce que les radioastronomes ont déjà fait depuis combien, 30 ans, 40 ans, sous la forme du radiotélescope d'Arecibo, que voici. C'est un miroir de 330 mètres de diamètre qui est niché dans une cuvette naturelle dans les petites collines de l'île de Porto Rico au milieu de la jungle. Alors, les perroquets volent par-dessus et les orchidées poussent sous les miroirs, là. Et nous avions envisagé de rajouter quelques miroirs optiques par-ci, par-là, pour au moins faire un essai d'hypertélescope. Mais nous avons renoncé pour différentes raisons. Une raison, c'est que la nuit, il y a un nuage qui s'installe dans la cuvette. Une autre raison, c'est que ça sert à faire des observations radar sur Vénus, notamment, qui implique l'émission d'impulsions de radar extrêmement intense, 1 mégawatt, et toute présence humaine est interdite à proximité parce que les gens risqueraient de cuire. C'est une espèce de grand four à micro-ondes, si vous voulez. On ne veut pas que les gens cuisent, les perroquets, je ne sais pas. Alors, au foyer, alors c'est un énorme truc. Il y a trois immenses pylônes qui portent des câbles pour porter le détecteur au foyer, qui se trouve par là, qui se balade sur cette espèce de rail courbe, là. Et l'ensemble peut tourner aussi en azimut pour explorer la sphère focale. Bon, et cette cloche-là, c'est le correcteur d'aberration sphérique. Alors, l'avantage des ondes radio, c'est qu'au lieu de prendre des miroirs en verre, on prend de la tôle d'aluminium et ça suffit bien, et ça ne coûte pas cher. Tout ça, c'est de la tôle d'aluminium. Et la forme générale est précise à 1 cm près, ce qui est déjà pas mal pour un truc de 300 mètres. Donc, la version optique pourrait ressembler à ça. Et bien sûr, le problème de base, c'est de trouver un site qui a la bonne forme. Là, à Arecibo, ils ont dû perfectionner la forme du site, en retoucher un peu la forme naturelle en envoyant un bulldozer et de la dynamite. Et en optique, on aura le même problème. On peut chercher des cratères de volcans. Il faut qu'ils soient bien éteints, il ne faut pas qu'il y ait de lac. On peut aussi utiliser une vallée profonde orientée est-ouest à condition d'observer au voisinage du méridien, c'est-à-dire ne pas observer trop loin vers l'est ou vers l'ouest, pour n'utiliser que la partie, disons si l'est et l'ouest sont là, pour n'utiliser que la partie médiane du miroir. On renoncerait à utiliser les parties latérales ici, on utiliserait que les parties médianes vers le nord et vers le sud, et à ce moment-là, une vallée cylindrique, ou presque cylindrique, pourrait suffire. Bon, alors bien, en optique aussi, on est très sensible au problème des vents au sol et en altitude. Bon, parce que ces vents agissent sur la durée de vie de la turbulence. L'atmosphère transporte des bulles d'air chaud qui déphasent la lumière, de sorte que votre image s'agite, il y a des tavelures ou speckles qui se forment dans l'image, qui sont dus à des effets d'interférence, et ça oblige à faire des pauses très courtes, par exemple un centième ou un millième de seconde dans le visible, et d'autant plus courtes que le vent est plus rapide, parce que le vent transporte ces bulles d'air chaud. Bon, alors nous avons regardé les cartes satellites des vents moyens, par exemple sur l'Amérique du Nord, c'est l'Afrique du Nord et l'Europe, ici, d'où il ressort qu'à ces latitudes-là, les vents sont en moyenne plus fort à l'altitude de 6000 mètres. Ils sont en moyenne plus forts. 24 mètres par seconde au lieu de 14 mètres par seconde dans cette zone-là, les Pyrénées, les Alpes. Alors évidemment, il y a plus de soleil dans le Sahara, mais il y a aussi des vents de sable. Enfin, l'un dans l'autre, il est apparu que les Pyrénées et les Alpes ne sont pas très désavantagés, malgré la nébulosité plus forte que dans le Sahara. Alors, nous avons prospecté un certain nombre de sites. C'est très commode avec Google Earth, et on a l'impression de se trouver en vacances. Et nous avons été voir les sites les plus prometteurs dans le Haut Atlas, aux Canaries, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Alors, dans les Pyrénées, parmi plusieurs sites possibles, il y a cette très jolie vallée qui est dans les Pyrénées centrales, sur le versant espagnol, tout près de la frontière française, qui est un peu plus loin par là. Une vallée glaciaire et qui a un profil, dans la partie plus haute, là, qui a un profil presque cylindrique, assez intéressant. Que voici. Là, c'est vu d'en haut. C'est vu d'en haut. Il y a des éboulis, il y a une moraine dans le fond qui se raccorde, enfin la moraine de l'ancien glacier disparu depuis peut-être 10 000 ans, qui se raccorde de façon presque cylindrique. Et le torrent, il est à sec presque toute l'année. Et parce que l'eau passe par-dessous la moraine. Et ça, c'est très intéressant parce que ça assèche la vallée, ça la rend moins humide. Alors, on peut regarder les lignes de niveau de la carte pour préciser la topographie. On peut mettre un calque dessus représentant les lignes de niveau d'une demi-sphère et voir si on arrive à ajuster le diamètre de cette demi-sphère pour que ça colle le mieux possible au terrain. Alors, il faut regarder les intersections des deux familles de lignes de niveau. Et là, par exemple, j'ai essayé de tracer des lignes représentant les écarts. Alors, par exemple, cette ligne-là, c'est là où l'écart est de 20 mètres. Bon, et là, c'est 10 mètres. Bon, alors ça veut dire que sur une bonne partie du terrain, il suffira supporter les miroirs, porter les petits miroirs sur des perchoirs qui feront moins de 10 mètres, pour quelques mètres, pour former exactement une surface sphérique. Alors, il y a différentes façons possibles de disposer les miroirs au sol, qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus. Et on peut calculer aussi comment se déplace l'ouverture effective pendant que l'étoile se déplace dans le ciel. Avec cette géométrie de sphère, vous avez, lorsque l'étoile se déplace, le correcteur d'aberration sphérique qui est ici limite les rayons extrêmes. Il n'accepte que les rayons centraux, jusqu'à une ouverture de f sur 1 à peu près, et n'accepte pas les rayons extrêmes. Et donc, lorsque l'étoile se promène, en fait, la zone exploitée du grand miroir dérive légèrement. Et on voit cette dérive ici, là, c'est une heure avant le transit de l'étoile. Vous avez l'ouverture effective qui est là, au moment du transit, et une heure après. Bon, les parties en rouge sombre sont les parties qui sont vues plus loin que les parties en blanc, là. Enfin bref, ceci permet de voir que ce genre de géométrie pourrait permettre d'observer au moins 2 heures et peut-être 3 ou 4 heures une étoile donnée, ce qui est Donc on ne pourrait pas la prendre à son lever et à son coucher, il faudrait la prendre 2 heures avant ou 1 heure avant le transit. Mais c'est un temps d'observation déjà satisfaisant. Alors, l'été dernier, nous avons été faire des petits essais sur place, notamment pour tendre un câble et mesurer les oscillations du câble, de la caméra qu'il porterait au foyer, compte tenu du vent inévitable. Alors, voilà la force de frappe là, qui a transporté le 400 kg de matériel. Voilà le câble ici qui est du Kevlar de 6 mm. Donc nous avons monté un câble de 1 km pour tendre en travers. Nous avons eu un petit problème parce que l'âne s'est sauvé avec le câble. Voilà l'arrivée, donc il y avait 5 ânes qui portaient le matériel. Voilà l'arrivée de la caravane. Dans la partie qui va être exploitée, le câble a été tendu dans cette partie-là. Au fond, il y a un cirque. Et nous avions construit un système pour que le câble puisse être descendu facilement, dans quelques minutes, au sol, grâce à un système de poulies de contrepoids, de façon, d'une part, à pouvoir accéder facilement à la caméra en cas de besoin, et d'autre part, de descendre le câble dans la journée pour éviter le risque d'accident avec des avions, des hélicoptères, des ULM ou même des oiseaux. Vous savez qu'il y a d'immenses oiseaux qui s'appellent les vipaètes barbus, qui est une espèce de vautour de 3 mètres d'envergure, qui vole là, qui est très 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 rare et très menacé. Et il se trouve qu'une semaine avant nous, il y en a un qui s'est tué du côté français, près de Gavarnie, sur un câble électrique EDF, en percutant un câble électrique EDF. Et c'est un sujet très sensible là-bas. Et donc le fait de pouvoir descendre le câble dans la journée pourrait permettre d'éviter ce risque. Alors le câble a été, nous avons envoyé une équipe d'alpinistes chevronnés planter des pitons dans la falaise par ici. Le câble a été tendu en travers. On le voit ici, là, on devine à peine ici. Et là, la petite nacelle que nous visions avec ce petit télescope pour mesurer ses oscillations, compte tenu du fait qu'il y avait 2 autres câbles obliques ici pour bloquer le plus possible les oscillations. Et en fait, ce sont, dans le vrai système, ce sont les câbles qui permettront de déplacer la nacelle latéralement pour suivre le mouvement de l'étoile. Quand l'étoile se déplace, il faudra que la nacelle suive l'image qui va se déplacer comme ça, plutôt dans ce sens-là. Et alors, le verdict de l'opération, après plusieurs nuits d'essai, a été que, malgré le petit vent résiduel, les oscillations du câble, les oscillations de la nacelle ici, sont plus petites que 1 mm et qu'une période de 15 secondes à peu près. Donc ça se balance très doucement avec une amplitude d'un millimètre. Bon, et ça, c'est suffisamment petit. On peut, c'est exploitable. On pourra filmer avec la caméra l'image de l'étoile sans être trop gêné par ces oscillations. D'autant qu'on pourra à terme mettre un asservissement pour suivre de façon active. Alors, nous avions eu une contribution majeure de plusieurs amateurs, y compris un médecin cardiologue qui était là pour surveiller. Et aussi d'un ancien technicien du Pic du Midi, d'observateur du Pic du Midi, qui est aussi un ancien de l'Everest, et qui a repris du service pour fixer les pitons dans la falaise et pour fixer cette poulie avec le système de contrepoids pour pouvoir descendre le câble. Alors, le système de contrepoids, le voilà en place, dans une petite falaise d'une vingtaine de mètres de haut. Et voilà le contrepoids, qui est une espèce de panier rempli de pierres. Alors, côté miroir, donc nous avons vu que la théorie incite à faire des miroirs petits et nombreux. Ça tombe très bien parce que finalement, les miroirs petits et nombreux, petits, c'est moins cher. C'est moins cher parce que c'est moins épais. C'est moins épais. Donc, il faut moins de verre. Or, le verre coûte cher, le verre optique coûte cher. Donc, nous avons fait des essais avec un miroir de 15 cm, par exemple, que voici. Alors, ces miroirs, ils sont sphériques, mais en fait, ils sont presque plans parce que le rayon de courbure est très grand. Le rayon de courbure est 400 mètres. Le site permettra de faire une ouverture effective de 200 mètres à peu près. Et à F sur 1, ça fait un rayon de courbure de 400 mètres, ce qui correspond au rayon de courbure de la vallée, en gros. Les miroirs seront... Alors, ce prototype utilise une espèce de trépied très rigide. Alors, il ne faut pas que ça vibre à l'échelle du dixième de micron, c'est le point délicat de tout ce qui est interférence, notamment verticalement. Latéralement, ça n'a pas d'importance, mais verticalement, il ne faut pas que ça vibre à l'échelle du dixième de micron parce que ça influence la phase de l'onde et donc ça fait vibrer les interférences sur la caméra. Donc, on essaie de faire un trépied très rigide avec du tube assez costaud en acier, qu'on remplacera peut-être par du tube en fibre de carbone pour éviter que la nuit, tout ça ne descende d'une centaine de microns à cause de la contraction, de la dilatation thermique. Baisse de température. Fibre de carbone a une dilatation presque nulle, mais elle est plus chère. Donc vous avez là trois vis qui permettent d'orienter le miroir et de régler sa hauteur pour que ça colle exactement à la sphère géante théorique, avec une précision de peut-être une dizaine de microns. Alors, je disais qu'il faut un dixième de micron. En fait, l'atmosphère introduit des variations de chemin optique de l'ordre d'un micron ou quelques microns. Et tant qu'on ne corrige pas l'atmosphère, ce n'est pas la peine d'essayer de faire beaucoup mieux. Et une fois qu'on corrigera l'atmosphère avec de l'optique adaptative, eh bien, elle prendra en charge aussi les petites erreurs de positionnement des miroirs, les petites erreurs fixes de positionnement des miroirs. Bon, donc il n'y a pas besoin d'avoir une précision extrême, disons une dizaine de microns. Et la question est de savoir, est-ce que si on fixe des trépieds comme ça dans les éboulis au pied des falaises, est-ce que ça va être stable à l'échelle de 10 ou 20 microns pendant une nuit, un mois, un an, un mois peut-être. S'il suffit de régler une fois par mois, ce n'est pas trop grave. Donc voilà un petit prototype de trépied qui est ancré dans les boulis par des piquets de 40 cm, enfoncés à coups de marteau, avec un système de rotule pour pouvoir régler tout ça. Alors ça, c'est un essai qui a été fait à Cossol, près de l'observatoire de Calerne, où il y a aussi une falaise avec un éboulis dessous. Bon, et puis alors, une petite manip de labo a permis de mesurer les vibrations et la stabilité de ce trépied que voici, en collant dessus un petit miroir et en faisant un interféromètre de Michelson avec un laser. Ça, c'est un laser. Interféromètre de Michelson, c'est le fameux système qui avait permis à Michelson, en son temps, de mesurer la vitesse de la lumière et sa variation en différents azimuts et qui avait inspiré Einstein pour la relativité. Ça avait permis de montrer que la vitesse de la lumière est invariante. Et de nos jours, à l'époque, c'était difficile de faire marcher un interféromètre de Michelson. De nos jours, c'est très facile. Il suffit de prendre un petit laser, voire même un laser comme celui-ci, de mettre une lame semi-transparente ici qui divise en deux la lumière. Une moitié va sur un autre miroir ici. Une moitié va sur un miroir ici qui est fixé sur le trépied. Les deux rayons reviennent sur eux-mêmes, ils ressortent, une partie ressort vers le laser, une autre partie ressort ici, et ici, donc vous avez donc deux spots lumineux, et en réglant les miroirs, vous pouvez les superposer exactement, et à ce moment-là, vous voyez apparaître des interférences qu'on doit voir ici sur cet écran, et lorsque vous donnez des pichenettes sur la ferraille, ici, vous voyez vos interférences qui bougent, de façon extrêmement sensible, puisqu'il suffit d'un dixième de micron pour les faire bouger. Et c'est donc un bon test. Alors, il a fallu aussi voir si les interférences sont très sensibles quand une vache se gratte sur le trépied. Alors, nous n'avions pas de vache sous la main, donc il a fallu simuler les grattements d'une vache. Si c'est trop sensible, il faudra imaginer un moyen d'empêcher les vaches de se gratter, peut-être en faisant un petit mur en pierre sèche autour, ou bien en mettant une clôture électrique. Alors, ce site est très, très, très intéressant, plus d'un titre, mais nous ne sommes pas encore certains que nous serons autorisés à l'utiliser. Nous avons fait une demande au gouvernement d'Aragon, qui tarde à répondre. Ce n'est pas un parc national, c'est entre deux parcs nationaux, mais c'est un des plus belles vallées des Pyrénées espagnoles. Et le gouvernement local craint qu'on abîme cette vallée. Nous avons essayé de les persuader que ce sera une structure complètement très légère et complètement démontable. Il n'y aura aucun béton, tout sera amovible. Si dans 10 ans ou dans 20 ans, nous partons dans l'espace, nous pourrons complètement retirer toute trace. Et il n'y aura pas besoin de construction, peut-être une manip relativement légère, utilisée à distance, observée à distance. Vous savez qu'il y a déjà des interféromètres qui sont utilisés à distance. Nos collègues de Grasse utilisent le grand interféromètre qui est sur le mont Wilson, près de Los Angeles. À distance, ils observent depuis leur bureau tranquillement, en faisant tourner l'interféromètre qui est là-bas. Donc ça peut se faire, et ça évite de se geler les pieds en hiver là-haut, à 1700 mètres d'altitude, où il fait relativement froid. Mais il y a d'autres sites possibles. En cas d'impossibilité à cet endroit, il y a d'autres sites possibles. Par exemple, dans les Alpes du Sud, vous avez ce vallon là qui a une forme pas aussi bonne, mais quand même assez bonne, mais qui se trouve à la limite du parc national du Mercantour. La limite du parc, c'est ici. Côté parc, c'est par là. Et là, c'est côté parc. Donc il faudra demander une autorisation là aussi. Nous ne savons pas encore le résultat. Bon, là aussi, on pourrait faire des bases de l'ordre. Le rayon de courbure de la vallée est de 360 mètres. On pourrait faire des bases de l'ordre de 200 mètres à cet endroit-là. Un problème, c'est les avalanches. Il existe une carte des avalanches. Je vous la recommande vivement si vous voulez aller vous promener dans les montagnes au printemps. Voilà les traînées d'avalanches. Et malheureusement, il y a une zone blanche. Ici, une zone blanche où la carte n'a pas été faite. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a là. Et l'interféromètre serait juste ici, à la limite. Il serait là. Voilà, il serait là, c'est cette partie rouge là. Donc il y a cette avalanche-là qui déborde un peu dessus, et nous ne savons pas s'il y a une protection possible. Bon, et puis bien sûr, si on trouvait un cratère idéal, ça pourrait être encore mieux, mais les cratères idéaux, c'est rare. C'est rare. En se promenant sur Google et en tapant volcan extinct, on voit pas mal de photos de cratères, dont celui-ci qui est en Australie et celui-ci qui est en Éthiopie. Mais c'est un gros travail d'évaluer ces différents sites. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour le 10 mars où je parlerai des versions dans l'espace, notamment avec une flottille de petits miroirs gros comme ça, piégés par des faisceaux de laser. J'en avais déjà parlé l'an dernier, je donnerai quelques précisions. Je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.